Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez donc laissé vos maris partir au match, c'est ça ? Non, il y a des messieurs quand même dans la salle qui n'aiment pas le rugby. Vous devez être mal vus. En tout cas, merci beaucoup d'être là, alors qu'en effet, il y a un gros événement à Brive, outre cette rencontre, qui elle aussi est un événement. Vous allez voir, on a regroupé sous le terme « Les choses humaines », les trois romans dont il est question. Donc, « Un tesson d'éternité » pour Valérie Tongkyong, publié aux éditions Lattès. « Parle tout bas » d'Elsa Fotorino, aux éditions du Mercure de France. Et puis « S'adapter » de Clara Dupont-Mono aux éditions Stock. Je ne sais pas comment on peut donner des points communs d'emblée entre ces trois livres. Je ne crois pas qu'il y en ait. Vous allez les voir sans doute se tisser au fur et à mesure que leurs auteurs vont vous parler de vos livres. Il y a différentes sortes de transmissions et d'échos dans le vivant. Je vais vous demander à chacune de faire cet exercice qu'en général vous n'aimez pas faire, qui est de nous dire en quelques mots de quoi parle votre livre pour qu'on puisse ensuite, à travers les questions et la réflexion tout autour et à partir de cela, cheminer tous ensemble avec le public. Clara.
Alors, le livre S'adapter, je dirais que c'est la naissance d'un enfant différents dans une famille, mais c'est raconté par la fratrie. Donc, il y a trois points de vue. Il y a l'aîné, la cadette et le petit dernier. Et ça se passe dans les Cévennes. Et c'est raconté par les pierres. Ça fait plein de pitch, là. En fait.
Ça fait un beau pitch.
Ah bon, ça va, alors.
C'est tout
Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, l'aîné... Il, lui, c'est l'amour-passion vis-à-vis de cet enfant différent. C'est un enfant qui, très vite, on s'en aperçoit, hein, qui ne peut pas se mettre debout, qui ne peut pas parler. Vous m'arrêtez si, du coup, ça passe au trop détaillé, c'est pas assez pitch. Hein. Et il va être, lui, dans l'adoration, dans la protection, dans le soin permanent. Et la cadette, elle, ça va être la révolte, en fait, contre cet être différent qui vient torpiller un équilibre qu'elle croyait inamovible, comme souvent les équilibres, on les pense comme ça. Donc elle va être en colère. Et le petit dernier, il va naître avec la charge de réparer la famille. C'est le petit dernier. Il arrive après les drames, entre guillemets, donc il n'a pas le droit d'en créer. Et donc sa place à lui, c'est de cicatriser la famille. Et les trois points de vue racontent en fait presque la même histoire. Mais la fratrie a ceci d'intéressant que vous pouvez vivre un événement identique et selon votre place dans la fratrie, en fait, vous allez le vivre de façon complètement différente selon que votre place en fait dans la fratrie, alors même que factuellement parlant, ce sera exactement le même événement.
Alors, c'est tout un travail sur la subjectivité et la fertilité aussi du point de vue. Vous avez choisi le petit garçon, l'enfant, qui s'appelle l'enfant dans le livre, il naît inerte, c'est-à-dire que la seule façon de communiquer avec lui, alors qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne parle finalement pas, à part quelques cris ou quelques vocalises, c'est le toucher. Et le Louis.
En effet, c'est un enfant qui... Alors, le mot barbare aujourd'hui, on dirait qu'il est encéphalopathe, ce qui ne va à peu près rien dire, sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui marche, sauf en effet Louis. Et quand l'aîné comprend que cet enfant-là aborde le monde uniquement avec l'oreille, il se met à lui décrire tout l'environnement avec la voix. C'est un enfant qui peut un peu communiquer uniquement soit par des pleurs, soit par des rires. Quand il est heureux, par exemple, il sourit, et voire des fois, il se marre un peu. Et donc, il y a une communication avec lui. Et en fait, l'aîné, lui, va être très touché parce qu'en fait, il découvre ce mode de communication qui, en fait, vous fait arriver à une espèce d'acuité sonore et sensorielle extrêmement fine, si bien que cet aîné, quand il va se retrouver au collège ou au lycée, quand il y a la pétarade des mobilettes ou quand il y a le brouhaha des groupes ou quand il y a le claquement du portail, en fait, il supporte pas. Il y a trop de bruit, en fait, pour lui. Et à un moment, il rigole tout seul en disant « Mais en fait, c'est moi finalement qui suit inadapté. La question derrière étant, s'il faut s'adapter à l'inadapté, eh ben, c'est qui est inadapté. Voilà, donc ça pose aussi un peu la question de la norme quand même. Et en revanche, la cadette, elle se fiche complètement de savoir que Louis fonctionne, parce tout la dégoûte un peu. Bon, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc en effet, c'est Louis qui permet le mode d'accès au monde.
On en reparlera, et on parlera aussi du fait que vous ayez choisi que vos narratrices soient de l'ordre de l'inanimé, comme cet enfant. Et elles entendent tout, elles aussi. Valérie Tangkuang, des tessons d'éternité, de quoi s'agit-il dans ce livre ? Alors, je dis des tessons et je trahis, c'est un tesson d'éternité.
Un tesson d'éternité. Bonjour à toutes et à tous. Un tesson d'éternité, c'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années, Anna. Elle est pharmacienne dans un petit village très chic de la Côte d'Azur. Elle a épousé un des enfants de ce village, Hugues, et ensemble, ils ont un fils, Léo, qui vient juste d'avoir 18 ans et qui s'apprête à passer son bac. Ils vivent à première vue une existence tout à fait paisible, ordonnée et très 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 confortable, hein, très bourgeoise, on parlait d'équilibre fragile, que rien ne semble pouvoir perturber. Et pourtant, un matin, à 6h30, des coups très, très, très violents sont portés. Donc, ils sont chez eux, hein, ils dorment. Et des coups très violents viennent les réveiller et font irruption des gendarmes cagoulés de noir. Et ces gendarmes viennent interpeller leur fils, le menotter. Et ce garçon va être incarcéré dans la foulée, donc avant ce fameux bac fatidique. Et à partir de là, en fait, tout ce monde, ce beau monde, va voler en éclats. Les apparences vont voler en éclats et on va comprendre que ce monde-là, cette famille, eh bien, c'est un monde construit pierre à pierre avec beaucoup de détermination et de méthode aussi, beaucoup de travail par Anna, la mère de famille, pour échapper à une première vie, une première existence qui va, à partir de là, la rattraper. Et c'est un roman donc qui pose la question du déterminisme social à travers les rapports de classe, les rapports de genre, le déterminisme des origines, le déterminisme de la violence, jusqu'à quel point ce qui nous a construit ou parfois déconstruit d'ailleurs dans l'enfance et l'adolescence conditionne le reste de notre existence. C'est un roman aussi qui pose la question des liens qui nous unissent aux autres, sur quoi se fondent-ils réellement, les liens, qu'ils soient amoureux, amicaux, familiaux, sociaux d'une manière générale, puisque on va voir que cette déflagration, cette incarcération va mettre à mal absolument tout l'environnement, la famille elle-même, en fait, les liens entre les uns et les autres, mais aussi avec leur environnement. Et c'est un roman qui questionne aussi la liberté, alors en écho bien sûr à l'incarcération de ce garçon. Qu'est-ce que c'est être libre? Anna va elle-même prendre conscience qu'elle n'a jamais vraiment été libre, ni dans la première partie de son existence qu'elle a subie, ni dans la seconde qu'elle a pourtant choisie. Et donc, elle va devoir réfléchir à ça. Et je terminerai en disant que ça a été aussi l'occasion pour moi d'explorer l'univers de la détention, mais pas de manière d'une manière, je crois, peut-être un peu singulière. On a l'habitude de voir assez souvent en littérature ou au cinéma la prison, la détention entre les murs, mais un peu moins la déflagration donc que représente la détention d'un proche et encore plus celle d'un enfant pour sa famille. Et comme c'est un environnement que je connais un peu puisque je me rends dans les établissements pénitentiaires assez régulièrement, donc j'avais vraiment depuis longtemps en tête l'envie de montrer l'envers du décor et la manière dont les proches et les familles vont être impactés cet événement.
Vous avez employé plusieurs fois le mot de déflagration. Il y a aussi la déflagration des secrets qui, sur la famille ou peut-être sur la, sur la progéniture, sur la transmission.
Oui, absolument. Il y a donc cette question, je disais que cette femme va voir ressurgir son passé, puisque cet événement-là va la renvoyer à une enfance qu'elle a tue, qu'elle a une adolescence, qu'elle a cachée soigneusement, puisqu'elle a fui cette partie-là de sa vie. Elle a essayé de couper les ponts, et c'est une partie de vie qui a été donc soumise à la brutalité, à la violence. Enfin, ça a été extrêmement difficile pour elle, et elle a eu le sentiment à un moment donné que, telle une transfuge, elle, en fuyant vers un milieu plus aisé, donc fuyant géographiquement aussi, avant tout en fuyant socialement, donc en s'élevant, et c'est pour cela que ça lui a demandé beaucoup de travail, elle pourrait construire et protéger son enfant, et donc permettre à son enfant d'échapper à, de ne pas avoir à vivre ce genre de choses, et d'avoir un avenir beaucoup plus solide, radieux, etc. Or, évidemment, à travers cette déflagration, on va constater que, malheureusement ou heureusement dans certains cas d'ailleurs, mais les transmissions, eh bien, elles ne s'interrompent pas aussi facilement. Il suffit pas de construire comme ça des apparences, de faire semblant et de dire que voilà, ça y est, c'est terminé, tout ça, c'est du passé, ça a existé mais c'est terminé, on referme la porte. Ben non, ça ne suffit pas. La transmission, elle s'opère malgré soi, et finalement, ben, moins on en parle, moins on met les sujets sur la table, plus elle s'opère de manière insidieuse et dangereuse, et c'est ce qui se passe aussi pour cette femme, puisque son fils, en fait, est porteur d'un certain nombre d'aspects, de choses qu'elle aurait aimé, qui sont arrivées jusqu'à lui, malgré et peut-être parce que elle a voulu les occulter.
On verra peut-être aussi tout à l'heure que la transmission se fait dans les deux sens, et que parfois ce sont nos enfants qui nous permettent de régler les douleurs et les secrets anciens. Elsa Fotorino parle tout bas. Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est un récit ? C'est un roman sur la première page.
Alors c'est un roman avec... C'est mon histoire que j'ai romancée. Quand j'avais 19 ans, un jour, je suis allée me promener à vélo dans un bois et j'étais violée par un inconnu. Vous parliez de déflagration, c'est un mot que je pourrais utiliser moi aussi à ce moment-là pour ce qui s'est passé dans ma vie. Et il y a quelques années, j'ai décidé d'écrire cette histoire. Et pourquoi j'écris roman sur la couverture ? Parce que je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose de cette histoire, il faut que je la transforme. Donc il y avait déjà un processus de transformation. Il faut que j'arrive à traduire cette violence, il faut que j'arrive à la traduire dans la poésie, dans la littérature, dans quelque chose qui me dépasse et qui transcende le réel. Parce que pour moi, transcender le réel, c'était pas seulement quelque chose de joli ou d'une démarche plastique, c'était transcender ma propre histoire, et c'était retrouver ma liberté et ma dignité. Donc j'ai écrit un roman.
Alors votre narratrice est très enceinte au moment où démarre le livre. Que se passe-t-il dans sa vie à ce moment-là, alors qu'elle est projetée dans le futur de cet enfantement? Et que se passe-t-il à ce moment-là?
Eh bien, elle reçoit un coup de fil de la police. De la police du 17e arrondissement qui lui dit, voilà, on a un courrier pour vous, vous allez être convoqué parce que l'homme qui vous a violé il y a 12 ans a été retrouvé, il va y avoir un procès. Alors à ce moment-là, il y a toute une mécanique qui se met en branle, mais cette mécanique-là, elle était déjà à l'œuvre, parce que c'est toute la mécanique de la mémoire, bien sûr, le procès, etc., et puis... Tout ce que ça suppose d'audition, d'interrogatoire, mais c'est aussi toute cette mécanique de la mémoire qui revient, comment cet événement traumatique ressurgit sans arrêt dans le présent, comment le passé revient hanter le présent.
Puis il y a aussi la question du discours, vous venez de l'évoquer, il faut dire et redire et re-redire. À quel moment est-ce qu'on est encore dans un témoignage ou dans plutôt la fiction qu'on raconte à partir de ce qu'on a vécu?
Alors, je crois que n'importe qui ici dans cette salle a pu faire l'expérience un jour de voir son visage sur une photographie et à partir de cette photographie d'inventer un souvenir et d'être persuadé de l'avoir vécu. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette mémoire qui se dérobe, cette mémoire qui triche et qui réinvente notre propre histoire. Donc tout est vrai dans ce livre et tout est inventé. Mais il y a, entre ce qui est vrai et ce qui est réel, il y a une différence. Parfois on n'a pas besoin d'écrire quelque chose de réel pour que ce soit vrai et pour que ça sonne juste.
Dans ce livre, bien sûr, il y a ce que vous venez de l'évoquer, le processus judiciaire, et on s'aperçoit finalement qu'il y a dans le processus judiciaire une violence assez proche de l'objectivation qui survient dans le viol, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un être, vous n'êtes plus une subjectivité, vous êtes un objet.
C'est assez terrible parce que déjà on vous demande de raconter, donc c'est une forme de harcèlement même judiciaire. Moi, on m'appelait tous les 2 ans, 3 ans, sans crier gare, un jour, un matin, 7h du matin, n'importe quelle heure, et puis on me disait bah, venez reconnaître des photos, venez re-raconter. Le dossier a été transféré à une autre juridiction, venez raconter. Et donc on est toujours soumis à cette histoire dont on veut se débarrasser profondément, mais qui vient nous hanter en permanence, qui vient nous mordre. C'est comme une espèce de choc qui est éternel, qui ne s'arrêterait jamais. Il n'y aurait pas de limite parce qu'il y a toujours ces appels qui reviennent sans cesse comme une rengaine et qui sont absolument imprévisibles. Et puis il y a aussi une autre forme de violence, c'est-à-dire que quand on porte plainte, eh bien, on n'est pas forcément bien reçu dans un commissariat. Moi, la première fois, quand je suis arrivée au commissariat, la toute première question qu'on m'a posée, c'est « Comment étiez-vous habillée, mademoiselle ?» C'est tout de suite une forme de culpabilisation. Et puis, c'est cette idée que le corps d'une femme est nécessairement trop sexué. Donc, c'est les vêtements qui mettent en avant la sexualité de la femme. Mais c'est le regard qu'on porte sur le corps des femmes qui est sexué. Et ça, c'est insupportable. Et il y a tout un tas d'incohérences comme ça dans la procédure judiciaire que je mets à jour, que je mets en évidence, et des choses qui sont parfois complètement absurdes. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, la narratrice rentre du bois, elle prend un bain, parce que le premier réflexe, c'est quand même le réflexe de la propreté, d'enlever cette saleté qui nous souille et qui nous colle à la peau, qui nous honte, dont on ne peut jamais se débarrasser. Donc, elle jette tout un tas de détergents dans son bain, elle redescend, et là, la police arrive en disant « Mais malheureuse, vous avez pris un bain, c'est terrible, vous avez dilué tout l'ADN ». Donc ils font quand même des prélèvements sur les vêtements, etc. Et quelques mois plus tard, l'un des capitaines de l'enquête l'appelle en lui disant « Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, nous avons fait les prélèvements ADN. Alors, on ne peut pas dire qui c'est, mais on peut dire qui c'est pas. » Oui. Alors ça, voilà, ça c'était grandiose. Il y a des choses comme ça, voilà. Et cette absurdité de la procédure, j'avais très envie de la raconter. Pour moi, c'était très important parce que finalement... Chaque année, il y a pratiquement 25 000 personnes qui portent plainte pour viol. Personne, à part les spécialistes, les avocats, voilà, des personnes qui ont dans leur famille, certaines personnes qui peuvent les aiguiller, personne ne sait comment se déroule une procédure judiciaire. C'est quand même absurde, alors que des centaines de milliers de personnes portent plainte pour viol. Et ça, voilà, je raconte à quoi on est soumis dans mon livre, aux experts psychiatres, aux criminologues, aux juges d'instruction quand il y a un procès, ce qui a été mon cas. Et voilà, tout cet itinéraire, je le raconte.
Il y a, alors ce livre est très particulier, parce que les livres qui racontent ce type de violence faite aux femmes, évidemment, il y en a d'autres, mais votre angle est très particulier. Parce que c'est un livre d'une grande dignité. C'est ce qui frappe vraiment quand on vous lit, avec beaucoup de phrases qui sont des déflagrations, pour reprendre ce terme, dans l'esprit du lecteur. Et pour autant, vous auriez pu, comme vous venez de le raconter, céder à l'envie d'être très à distance et d'objectiver le procès et de rester une espèce de témoin omniscient et distancié, et ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il a fallu, il y a totalement votre subjectivité, mais il n'y a pas la plainte.
Je voulais pas me plaindre dans ce livre. Je voulais pas être dans un livre autocomplaisant. Et justement, c'était une façon, ce livre aussi, d'apporter un autre éclairage sur ce que peut être une victime d'un viol. C'est-à-dire, c'est que on est pris dans une complexité de sentiments qui sont extrêmement contradictoires. Et il y a bien sûr ce moment qui est extrêmement difficile. On réalise qu'on est une victime. Et ce moment est essentiel parce que c'est ça qui nous permet de prendre toute la mesure de la gravité de ce qui nous arrive. Il faut absolument passer par ce moment-là. Mais une fois qu'on a réalisé ça, qu'on en a éprouvé tous les contours, on nous enferme dans cette identité et on nous empêche d'en sortir. Et pour moi, ce roman, c'était une façon de me sortir de ça.
Oui, vous dites d'ailleurs à un moment dans votre livre que vous vous êtes passé du statut de victime à celui plus confortable, je crois, de plaignante.
De partie civile.
De partie civile.
J'étais active. Parce qu'une victime est par définition passive et une partie civile, elle est active dans le procès. C'est-à-dire quand on se constitue partie civile dans un procès, ça signifie qu'on réclame des dommages et intérêts, qu'on va être défendu par un avocat, etc. et que quelqu'un va nous représenter. Donc ça, c'est très très important.
Clara, parlez de quelque chose qui touche à titre personnel. Vous avez vécu d'un certain point de vue l'histoire de s'adapter. Qu'est-ce que ça implique de donner de soi et qu'est-ce que ça oblige à conserver pour soi?
Qu'est-ce que ça implique de, pardon,
de mettre quelque chose de soi dans ce livre qui n'était pas fait pour vous raconter?
Bon, moi, j'aime pas du tout. C'est pas très confortable, mais y a un moment, je suis assez d'accord avec ce que disait Elsa, il y a un moment, il y a une forme de nécessité. En fait, c'est plus à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit pas comment on pourrait ne pas le faire. En fait, c'est plus ça. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en fait, si on le fait pas, on vivra plus mal. Bon, à partir de là, on va le faire, parce qu'on n'a pas envie de vivre mal. Après, moi, pour ce qui est de mon histoire particulière à moi, moi, c'est quelque chose qui est arrivé à ma famille, d'avoir un enfant qui est né handicapé, qui a pas vécu très longtemps d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de qu'à un moment, en fait, la joie de l'avoir connu a remplacé la tristesse de l'avoir perdu. Et donc, à partir de là, l'écriture devient possible. Je suis pas sûre qu'en barbotant encore dans le chagrin ou la perte ou des choses comme ça, ça puisse être facile d'écrire un livre. En tout cas, moi, l'écriture, c'est pour ça que je crois pas tellement à l'écriture thérapie. Je pense au contraire, en tout cas pour celui-là, hein, parce que l'écriture vient couronner un process déjà, en fait, de grande guérison. Et ça vient, c'est ce que j'appelle, moi, les livres un peu cicalfates, quoi, du nom de cette crème qu'on achète en pharmacie, là, vous savez, les petites pubs pour la marque Aven, hein, qu'on embrasse, donc qui me devront des dommages d'intérêt. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui vient suturer, mais globalement, on est en processus de guérison quand même, enfin, c'est à peu près fait, et ça vient cautériser le tout. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que moi, quand j'ai écrit « S'adapter », j'ai le souvenir d'une grande joie. Autant j'ai fait deux livres avant qui étaient sur Aliénor d'Aquitaine, dont je suis sortie complètement essorée parce que c'était une lutte en fait avec elle, parce que c'était cérébral, parce qu'elle me donnait rien, parce que c'est un caractère de cochon, parce que c'est quand même un monstre. Et donc j'ai dû me batailler avec elle. En fait, celui-là, il y a eu un souvenir extrêmement heureux, bizarrement très sensoriel, où j'ai le souvenir d'avoir eu faim, d'avoir eu soif, d'avoir eu chaud. En fait, en me mettant quasiment à la hauteur de cet enfant, en fait, avec une espèce d'hyper... vraiment dans un registre, j'allais dire sensuel, mais c'est plus sensoriel, parce que j'ai le souvenir d'odeur, de...
Et c'est ce qu'on vit aussi en vous lisant?
Ah bah tant mieux.
Non, mais
c'est super. Non, tant mieux.
Il y a un moment où vos personnages disent « Si un enfant va mal, il faut toujours avoir un œil sur les autres. » Et là, en effet, il s'agit des autres.
Oui.
C'est-à-dire que tout le monde tourne autour de cet inanimé.
Oui, et puis alors la fratrie, c'est souvent la grande oubliée dans une famille. Non seulement quand il y a un enfant différent qui arrive, mais globalement quand il y a un pépin. Ceux qui ont l'air à peu près de tenir droit, et Dieu sait si c'est totalement légitime de la part des parents et des proches qui sont, à mon avis, d'abord occupés à tenir debout. Oui. Donc il y a de responsabilités. Alors là, vraiment, chacun fait comme il peut. Mais cette fratrie-là, et même littérairement parlant, vous voyez, c'est pas un thème qui est beaucoup exploré. En fait, les frères et les sœurs, on a des choses très belles, hein, sur les parents, les enfants, les enfants qui font les portraits des parents, mais la fratrie, en fait, c'est pas si exploité que ça. Et moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. D'abord parce que moi je la compare à un organisme vivant, la fratrie, où en fait les rôles changent très vite. C'est-à-dire que regardez autour de vous, très souvent, selon les épreuves de la vie, les aléas. Il n'est pas rare de voir qu'un aîné va se comporter comme le petit dernier. Le petit dernier, il va prendre la place de l'aîné. Le cadet va devenir parent des parents. En fait, c'est ultra mouvant et ça se réinvente tout le temps. Et en même temps, c'est accolé à quelque chose d'extrêmement inamovible. On reste le petit dernier pour toujours. On reste l'aîné pour toujours. Donc en fait, c'est le seul organisme que je connaisse qui soit aussi souple et aussi rigide en même temps. Et ça, c'est une mine pour le romancier.
C'est pour ça que vos personnages n'ont pas de nom ?
Alors, je pense qu'en fait, ça, c'était... oui, je pense qu'il y a une notion un peu de conte ou de parabole. L'histoire étant racontée par les pierres... alors, il faut savoir un truc, c'est que nous, les écrivains, on écrit et on comprend après. C'est-à-dire que là, on a l'air de cérébraliser tout ça. Vous êtes d'accord, quand même ? On conscientise rien, hein, quand on écrit. Non, enfin, je sais pas, mais... Et c'est soit parce que ça nous oblige à revenir sur nos textes et en fait on comprend des choses, soit c'est parce que c'est les lecteurs qui nous renseignent. Hein. Vous avez votre rôle aussi. Mais en tout cas, le muret, le fait que ce soit raconté par les pierres, dans la région où se situe le livre qui est les Cévennes, mais il y en a aussi en Corrèze, il y a des murets de pierres sèches, ce qui signifie que les pierres ne sont pas liées par un ciment ou par un liant, mais... parce qu'elles se soutiennent les unes les autres. Et c'est la grâce, à un moment, du poids de la pierre et de sa taille qui fait qu'en fait, le mur va tenir. Et ben pour moi, c'est exactement une fratrie. C'est-à-dire qu'on a beau dire... Moi, je veux bien qu'on aille taper sur la tête des familles et des fratries. Même ceux qui n'en ont pas se débrouillent pour s'en recréer une, quoi. Donc, alors, c'est là où c'est pas un livre très moderne, hein, parce qu'on n'est pas dans le « famille, je vouais ». C'est exactement l'inverse, quoi. C'est beaucoup plus un livre sur le soutien, en fait, familial, finalement. Mais bon, à pas être très moderne, on finit par le devenir. Donc j'ai bon espoir.
Enfin, vous avez eu un petit prix, il me semble, pour ce livre, non ?
Oui.
C'était quoi ?
Le prix féminin. J'ose pas.
Parce que la question de la modernité ne se pose pas. Hein. Voilà, un livre, ça consacre un moment d'éternité. Alors, moi qui vous connais un petit peu, quand j'ai vu que vous donniez la parole aux pierres, je me suis rappelé à quel point vous aimiez les gemmes à quel point la pierre fait partie de vous. Est-ce que c'est un... Alors, vous venez de dire qu'on conscientisait beaucoup, mais en fin de compte, vous êtes plutôt agie qu'agissante au moment d'écrire. Mais pourquoi les pierres comme narratrice ?
Alors, je pense qu'il y a quand même l'idée... un peu quand même du tropisme médiéval, qui est quand même... Moi, j'ai une passion pour le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge a ceci de particulier, qu'il adore animer l'inanimé. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Parce que j'y vois un fond de conte ou de croyance un peu enfantine, mais dans le bon sens du terme. Et au Moyen-Âge, on donne des prénoms aux cloches, par exemple, parce que c'est elles qui rythment le temps. On donne des prénoms aux épées, parce qu'on les voit comme la prolongation du bras, du chevalier. Et l'idée que les pierres parlent, c'était quelque chose qui m'était assez familier, où j'ai pas tant réfléchi que ça. Et puis après, je pense aussi, mais alors cette fois après avoir réfléchi, je pense qu'il y a là une notion d'accès primitif au monde, exactement comme l'enfant. Parce que l'enfant, il peut être très content. L'enfant, il peut avoir un grand sourire et un moment de bonheur uniquement parce qu'il a l'estomac plein, parce qu'il a le moelleux de son pyjama, parce qu'il y a le roucoulement de la rivière. On est dans un rapport au monde primaire, mais au sens noble du terme. Pas primitif, on pourrait dire, mais plutôt primaire. Et du coup...
Essentiel, non ?
Oui, exactement. Et je trouvais que les pierres symbolisaient ça. Elles sont là depuis toujours. Elles ont pris l'habitude de recevoir des averses sur la tête. Leur seul ennemi, c'est le vent et pas le feu. Le froid, le chaud, les vies humaines qu'elles surplombent. Il y a quelque chose là de l'ordre de l'immémoriel et du primaire qui me touchait beaucoup.
Merci Clara. Alors là, je vais essayer de faire une transition un peu hasardeuse. Vous parliez du Moyen-Âge, alors voilà, des combats dominants-dominés, et on arrive à Valéry, donc Wang. Il me semble que la question du rapport de force, du rapport de classe, draine toute cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous en parler sans trop déflorer?
Oui, bien sûr. Donc Anna vient d'un milieu social qui est très populaire, pauvre ou en tout cas très très étriqué. Ses parents, elle est fille unique. Ses parents n'ont qu'une seule préoccupation, c'est survivre, c'est-à-dire payer leurs factures. Alors ils tiennent un petit commerce, une petite épicerie. Et puis c'est une époque où bien sûr les grands supermarchés arrivent. Enfin, le monde est en train de changer. Et donc c'est très compliqué pour eux. Et ils sont tellement préoccupés par cette survie qu'ils ne voient pas ce qui se produit pour leur fille et qu'ils ne voient pas que leur fille devient une victime. Alors eux-mêmes aussi d'une certaine façon donc sont victimes d'un système et leur fille est victime d'un sous-système dans lequel finalement alors je veux pas trop déflorer mais des jeunes, des gens moins jeunes d'ailleurs, mais
c'est très moderne. C'est-à-dire, c'est le harcèlement, c'est l'envahissement.
Oui, c'est le harcèlement, harcèlement scolaire ou hors scolaire. C'est ce moment où quelqu'un qui est identifié comme vulnérable, sans défense, va être un peu comme la petite gazelle. Au bout du troupeau, elle est rattrapée par les lions et elle est dévorée. Et donc cet enfant-là, elle va souffrir de cette situation, mais de son milieu, parce que rien dans ce milieu-là ne permet de la défendre, puisqu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'interlocuteur, il y a une grande solitude, un grand isolement. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, elle va avoir sa seule porte de sortie en fait va être changer de milieu social. Et donc elle va essayer d'y travailler puisqu'elle va comprendre, c'est une fille qui est intelligente. Très tôt elle a compris que, quand je dis sa voie de sortie, c'est la fuite, mais c'est la fuite par l'instruction en fait, par l'école. Et donc elle va beaucoup travailler, très bien travailler à l'école avec un seul objectif, trouver. Alors elle veut devenir médecin, elle réussira pas médecine, donc elle va devenir pharmacienne, et changer de classe sociale. Et elle se rend très vite compte, parce qu'elle a observé finalement dans son milieu d'origine comment les choses fonctionnaient, qu'il y avait cette loi du plus fort, etc. Et donc elle a compris une chose, c'est que chaque milieu a ses codes, et donc elle doit travailler ça. Et donc c'est là où elle va, je parlais de travail tout à l'heure, et donc avec beaucoup de détermination, beaucoup de sacrifices, elle va tenter d'acquérir ses codes. Et cela, en fait, elle va y parvenir d'ailleurs. On va pas dire comment, mais.
Ouais, alors justement, elle les acquiert. Elle a construit pierre par pierre son univers. Et puis la déflagration arrive. Et on s'aperçoit qu'au sein même d'un milieu social homogène dans cette petite ville, il y a des dominants, des dominés, une différence de classe qui.
C'est ça. En fait, elle va découvrir quelque chose qu'elle n'imaginait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'effectivement, il y avait les dominants, les dominés, mais que c'était, pour elle, le monde était un peu coupé en deux. Donc, il y avait, les gens plus pauvres, et puis les gens plus privilégiés, et puis, ça s'articulait comme ça. Et en fait, elle va découvrir que non, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus complexe, et que dans le milieu qu'elle intègre, à nouveau, il y a des hiérarchies qui se sont mises en place, et donc elle va être soumise à ces hiérarchies. Et d'ailleurs elle va nouer des liens amicaux avec son mari, avec un couple de gens, et je vais m'arrêter sur cet exemple parce que je trouve qu'il est très très parlant. Lorsqu'elle va rencontrer cette femme qui va devenir son amie, c'est lors d'une réunion de rentrée scolaire où elle a inscrit son fils dans un très bon lycée, et donc le jour de la rentrée scolaire, le directeur, enfin le jour de de la présentation aux parents, le directeur prend la parole. Donc la rentrée scolaire a déjà eu lieu en réalité 2 ou 3 semaines avant, et le directeur prend la parole pour sensibiliser les parents au fait qu'il y a eu un cas de harcèlement scolaire grave. Il y a un lycéen qui a été agressé par ses pères, enfin, maltraité, malmené par ses pères, et donc il demande à tout le monde d'être vigilant sur ce plan-là. Et à ce moment-là, un homme que Anna, l'héroïne, va identifier immédiatement comme très puissant, justement, on le sent parce qu'il est arrogant, parce que à sa posture, à sa façon à la façon dont il est habillé, enfin tout, il a les codes de l'homme puissant. Et il va prendre la parole, dire oh, ça va, c'est bon, c'est pas parce que il y a eu un petit parce que quelqu'un s'est fait baisser son pantalon dans un vestiaire de gym, on va quand même pas en faire toute une histoire, c'est depuis que le monde est monde, etc. Et une mère d'élève qui est là, elle va, qui est juchée sur des talons de 12, etc., va baisser le pantalon de cet homme.
Mais faut penser à le faire.
Non mais. En disant, bah, puisque c'est rien, c'est vrai après tout. Bon, et cette scène-là, en fait, mon héroïne, donc Anna, elle est très discrète. C'est quelqu'un qui, en permanent, ne veut pas se faire remarquer parce qu'elle a l'impression d'être toujours en sursis, que peut-être on pourrait imaginer qu'elle n'est pas complètement de ce milieu, etc. Donc elle veut cacher tout ça, donc elle ne fait surtout pas de vagues. Et donc elle assiste à cette scène et elle tombe véritablement en amitié amoureuse. Cette femme lui paraît être une super héroïne. Ce qui est très intéressant, c'est que quelques temps après, elle va comprendre que finalement, cette femme a agi de cette manière-là parce que cette femme-là est encore plus puissante que le puissant. Et c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ça. Vous ou moi, on n'aurait probablement pas descendu le pantalon, mais elle pouvait se le permettre. Et donc, cette scène-là, elle m'intéresse pour cette raison-là, c'est qu'elle montre que les niveaux de hiérarchie sont multiples et donc il y a un jeu de dominant et de dominé de manière très fine, très subtile, à l'intérieur de chaque cercle, en fait. Il y a ça se segmente à l'infini. Et elle va comprendre, donc, que c'est elle-même reste, elle a pensé à un moment donné pouvoir sortir de cette condition d'être vulnérable, d'être manipulée, d'être utilisée, etc. Et en fait, elle va s'apercevoir que extérieurement tout a changé, mais dans le fond, en fait, elle continue à subir cette domination.
Je pense qu'il faut quand même penser à faire ça. Moi, en lisant ça, je me dis, mais quelle bonne idée. Et j'attends la prochaine rentrée scolaire pour débusquer l'arrogant. Valérie vient nous raconter une sorte d'affranchissement qui n'a pas tout à fait réussi tel que son héroïne Anna l'envisageait. Vous, Elsa, votre narratrice, c'est aussi une jeune femme qui grandit et qui essaye de s'émanciper, qui choisit la pension. Enfin, on a toute une trajectoire. Est-ce que vous pourriez nous parler, alors vraiment, je dis de non pas de vous, mais de votre narratrice, parce que là, on est dans le domaine du roman. Qui est cette jeune femme ?
Bah, je crois que c'est quelqu'un qui essaye d'échapper toujours à sa condition, de tendre vers toujours plus de liberté, vers toujours plus de beauté et toujours plus de dignité. Donc c'est quelqu'un, c'est difficile d'en parler à la troisième personne puisque je dis je dans le livre et que je me confonds vraiment avec cette narratrice sur beaucoup d'aspects, donc ça vous embête pas si je parle à la première
mais pas
personne.
Du tout, mais c'est qu'en général on reproche à l'animateur de voilà, donc c'est très bien si c'est vous qui dites,
mais c'est la frontière est tellement ténue et ce jeu justement que j'ai dit dans ce livre, je me le suis approprié parce que avant d'écrire ce livre, je n'osais pas dire je. Donc pour moi, ça a été vraiment un passage aussi important. Je n'osais pas dire voilà ce qui m'est arrivé, regardez, j'ai été violée, c'est moi. Et le fait d'écrire ce livre m'a permis de dire je. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi de l'avoir écrit à la première personne. Vous me posiez tout à l'heure la question de la distanciation, mais voilà, il ne pouvait pas y avoir de distance. Il fallait que j'assume ce jeu, il fallait que je retourne dans le monde et que j'assume qui j'étais. Non, je n'étais pas simplement juste quelqu'un qui avait été violé. J'étais moi, je, Elsa. Elsa Fotorino, c'est moi et je ne suis pas réductible à ce viol. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question.
Si, non, il n'y a pas de problème là. Il y a quelque chose aussi de la. Peut-être défendre la possession de soi. C'est-à-dire, votre héroïne, enfin, votre narratrice, elle est maîtresse d'elle-même.
Pas du tout.
Mais alors, justement, elle. Enfin, oui, enfin, j'ai des choses que je ne peux pas trop dire non plus, mais. Il y a la question de se posséder soi qui passe par le nom. Et à un moment, dans votre livre, on vous dit qu'il faut arrêter de protéger ce nom.
Oui,
on vous dit arrêter
absolument.
De vouloir protéger votre père et votre nom. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut s'approprier mieux ce qu'on est ?
Alors déjà, sur cette question de ne pas salir mon nom, en fait, c'était assez terrible parce que c'était l'idée que ce n'était pas moi qui avait été sali, mais mon nom. C'est quand même un petit peu étrange. Et puis, quand je me suis mise à écrire, effectivement, et c'est ce que je dis plus ou moins dans le livre, il y a eu cette question du nom qui s'est posée. On m'a dit, il faut prendre un pseudonyme, comme si je n'étais pas autorisée, encore une fois, à dire « je » et à dire mon nom. Et vous savez, quand vous êtes victime d'une agression, d'une tragédie pareille, c'est une négation de votre humanité. Et par quoi commence votre humanité ? Par votre nom. Mon nom, c'est ce qui me restait. Il n'était pas question de le transformer, de changer, de cacher qui j'étais.
Il y a un moment aussi dans votre livre, alors la question de la honte est assez commune avec le livre de Valérie. On l'a entendu à travers les propos de Valérie. Vous lui avez refilé la honte. Et que ça, c'est quelque chose qui est un pas énorme pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage ?
Eh bien, alors je raconte dans le livre cette scène. Alors, je précise que la scène n'est jamais décrite dans les détails. D'ailleurs, ce à quoi peut-être les lecteurs s'attendent, je pense que les lecteurs s'attendent à ce que je raconte quelque chose d'horrible tout le temps. Et j'essaye de tourner toujours mon écriture vers la poésie, vers la liberté, vers la lumière. Donc peut-être que on s'attend peut-être plus à un témoignage finalement qu'à un roman. Mais donc cette scène de la honte où effectivement il y a cet homme qui ne supporte pas d'affronter mon regard. Et moi, je me dis, il faut que je me rappelle de son visage absolument, parce que j'ai déjà l'idée que, bon, a priori, je vais mourir, parce qu'il me dit tout le temps, je vais te tuer, donc pour moi, c'est ma dernière heure. Mais j'ai quand même cette présence d'esprit de me dire, il faut que j'imprime son visage, que je le regarde dans les yeux, pour qu'il voit ce qu'il est en train de faire. Pour qu'il se voit, lui, à travers mon regard. Et ça a fonctionné, parce qu'à un moment, il a tellement pas supporté ça qu'il m'a enfoncé le visage dans la terre, et je me suis retournée comme ça, et je l'ai regardé. Et quelque chose a changé.
Est-ce que ça contribue à vous sauver ?
De le regarder ?
Oui.
Mais c'est comme si il y avait cette maladie, la honte, que je n'avais pas contractée, que j'avais pu... que j'avais pu lui transmettre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment du procès, justement à cause de cette histoire de nom, j'ai demandé le huis clos, parce que tous les procès aux assises sont publics, sauf pour les mineurs. Et en fait, les autres parties civiles, parce que donc, c'est un violeur en série, donc nous étions 12, donc ça veut dire qu'il faut multiplier le chiffre par 5, quand même, pour savoir. À peu près, c'est ça, les chiffres noirs.
En fait, ça veut dire qu'il y en a 5 fois plus.
Il y en a 5 fois plus, voilà. Et donc, les autres parties civiles, on n'avait pas demandé le huis clos. J'étais la seule à l'avoir formulé. Et lui aussi l'avait demandé. Pourquoi ? Parce qu'il avait honte. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, évidemment, je me suis tout de suite désistée de ce huis clos. Il n'était pas question de m'aligner sur ses envies à lui.
Je voudrais toutes les trois que vous réagissiez à une phrase qui forcément vous touchera et qui fait écho aussi à vos livres. C'est la dernière phrase de votre livre. Alors, je l'ai écrit là, mais enfin, comme parfois je fais des erreurs, je vais le prendre directement. Dont on a du mal à se remettre. J'ai pensé, le désespoir n'a jamais empêché personne d'être heureux. Ceux qui en ont ne serait-ce que le souvenir savent. Ceux qui en ont ne serait-ce que le souvenir savent. Vous nous laissez là-dessus, elle vient d'où cette phrase ?
C'est, je crois que quand on a vécu une telle tragédie, on n'est pas réduit au malheur. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on a le droit d'être heureux aussi. C'est possible. C'est possible. Et il faut essayer de l'être. Et c'est pas parce qu'on est heureux, c'est pas parce qu'on arrive à construire que tout ça sera effacé, que tout ça arrêtera de nous attendre. Mais on a quand même le droit de construire notre existence. Et ce que je trouve un petit peu triste, un petit peu difficile parfois, c'est que dans toute cette trajectoire, même judiciaire, on n'a pas le droit finalement au bonheur. On ne nous donne pas notre chance. Parce qu'on nous infantilise, on nous regarde toujours comme voilà, quelqu'un de triste. Et le sentiment d'être heureux pourrait donner l'impression que ce n'est pas grave. Alors que non, au contraire, il faut un moment pouvoir accepter la gravité de ce qu'on vit, mais aussi montrer qu'on a le droit de s'en sortir. Et moi, quand j'avais 19 ans, j'aurais rêvé d'avoir un modèle de quelqu'un qui s'en est sorti, qui va bien tout simplement, c'est possible. Et ça n'efface rien.
C'est un immense cadeau que vous faites à toutes les femmes.
Merci.
Oui, si je peux juste rebondir sur ce que Lisa, moi je suis assez d'accord parce que, évidemment, un autre registre complètement, la dernière phrase que vous venez de citer est très belle sur le désespoir qui n'empêche pas d'être heureux. Parce que je pense qu'il y a une façon heureuse d'être triste. Et ça, je le tiens de Olivia de Lamberterie, qui est une auteure qui avait écrit un livre sur son frère qui s'est suicidé, qui s'appelle « Avec toutes mes sympathies ». Et ça m'avait vraiment marqué quand elle avait dit ça. Elle avait dit « En fait, il y a une façon heureuse d'être triste ». Et c'est très vrai. Et je rejoins complètement ce que dit Elsa, parce que, encore une fois, dans un autre registre, la venue au monde d'un enfant handicapé dans une famille, il y a en effet le passage de la honte. Alors, il y a un truc particulier qu'en plus, c'est comme c'est pas soi, c'est qu'on a honte d'avoir honte. C'est-à-dire les regards de travers sur la poussette, les copains qu'on ne fait pas venir le mercredi après-midi, c'est à la cadette dans le livre, elle déteste, elle est furieuse, elle n'arrête pas d'expliquer que sa maison est en travaux. Donc comme ça, elle ne peut pas inviter des gens, elle dit donc c'est des travaux interminables. Mais en fait, il y a une façon, c'est une honte honteuse, c'est le petit dernier qui résume comme ça, mais on a honte d'avoir honte. Et donc pour composer quand même avec tout ça, il y a quand même un moment, c'est l'idée de faire avec et pas faire contre. Alors ça a l'air de rien, mais dans la vie c'est quand même vachement difficile de faire avec et pas faire contre. Mais il y a quand même un moment quand on arrive à faire avec, et ben ça marche. Et c'est quand même l'histoire aussi de personnages qui apprennent à vivre avec. Et de la même façon, on pourrait dire aussi que vivre sans quelqu'un, c'est pas la même chose que de vivre avec la perte de quelqu'un. Et donc, en tout cas, l'aîné, il va apprendre à vivre avec la perte de son frère, mais on a spoilé.
Non.
Bon, tant pis. Mais bon, à un moment, il sort de sa vie, bon, et plutôt que de...
Non, vivre, vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon.
Il va faire un trek.
Voilà, qui vivrait pas longtemps. Mais...
mais plutôt que de vivre sans la personne, c'est vivre avec son absence. Et je trouve que c'est complètement différent. Et peut-être que... je sais pas, mais Elsa, c'est peut-être l'idée de, on apprend à vivre avec à un moment, oui, cette fracture dans la vie, mais comme fait finalement la pharmacienne.
Anna,
ouais. En fait, c'est exactement pareil en fait, parce qu'elle va apprendre, elle va devoir ou elle paiera cher de pas l'avoir fait, mais de pas avoir fait avec et d'avoir fait contre. En fait, c'est un peu la même philosophie derrière, quoi.
Ouais. Valérie.
Oui, bon, d'abord, ça, c'est tout à fait juste. Ce que ça m'inspire aussi, donc, qui n'est pas relié forcément directement, de manière aussi étroite à mon livre, c'est que, effectivement, c'est une peine supplémentaire, invisible, qui s'ajoute à la peine originelle, c'est-à-dire que on est victime de quelque chose qui va être une tragédie ou en tout cas un événement qui nous met à terre. Et ensuite, en fait, il va falloir faire face aux jugements ou aux attentes des autres. Et donc, c'est en permanence... oui, mais si on est trop heureux, alors c'est que peut-être c'était pas si grave. Mais si on est trop malheureux, alors c'est que. Enfin, et donc effectivement, on doit quelque part. C'est comme si on devait rendre des comptes et que si on avait Il y a comme s'il y avait des règles en fait, des règles
comme
dont
si
on
la
ne peut
jauge
pas sortir.
Était toujours le malheur,
on
en
a,
fait.
On avait voilà, on a vécu quelque chose de terrible, de terrifiant. Donc de toute façon, c'est comme ça. Et voilà le chemin qu'on devra suivre. Alors que, en effet, heureusement, il y a d'autres chemins possibles. Que ça, c'est très très intime, ce qu'on garde ou pas de ce qu'on a pu vivre. De violent ou de brutal, mais oui, évidemment, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est dans le désespoir, parce que le désespoir, moi, je pense que justement, on peut renouer même avec l'espoir. En revanche, je pense qu'on n'efface rien, rien ne s'oublie. Mais bon, après, c'est très personnel, très singulier, très individuel. Chacun le vit à sa façon. Mais voilà, ce qui me semble important, c'est que il y a un événement, une tragédie qui arrive à un moment donné, et ensuite il y a énormément de peines invisibles qui s'ajoutent à ça, de nature différente. Et ça, c'en est une, et c'est une importante, et c'est formidable de pouvoir le dépasser, de pouvoir, comme Elsa justement, montrer que, bah non, on peut aller vers la vie, on peut faire ce choix, on peut s'accorder cette possibilité.
Mais comme Anna, à la fin du livre.
Comme Anna aussi va,
ça, voilà, ça on dira
va
pas,
faire
on
des
va
choix
pas
radicaux.
Spoiler. Le temps a passé très vite. Je vais rappeler les titres de vos livres. Valérie Tongkyong, Un tesson d'éternité, publié aux éditions La Thèse. Vous sentez la fin venir, là, vous la sentez? Et vous signez sur le stand L8. Elsa Fotorino, Parle tout bas, un roman publié au Mercure de France. Et puis, un tout petit prix de Clara Dupont-Monod, S'adapter aux éditions Stock, prix Femina 2021. C'est un organisme dont vous parlez, en fait, parce que c'est un tout. C'est un très bel hommage, enfin pas un hommage, peut-être un hymne à la famille. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans vos livres. Merci à tous pour votre attention. Alors, Elsa signe en L5 et Clara signe en L13. Voilà, enfin bon, chez Stock, chez Gallimard Mercure de France et puis chez La Thèse, pardon.